Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. NCS et Le Libraire. Au programme, la discrimination par la porte d'en arrière. Et histoire de traduction chasseur au harpon. Bonne écoute.
La discrimination par la porte d'en arrière. Un texte de Laila Benadjouja et Laila Sélis, paru le 18 mars 2022 dans la revue Nouveau Cahier du Socialisme. À partir des théories de la colonialité du pouvoir, nous proposons une lecture des effets socio-économiques du débat et de l'adoption de la loi 21, la loi sur la laïcité de l'État, sur les groupes ciblés, particulièrement des femmes musulmanes et racisées. Par cet article, nous voulons contribuer à mettre en lumière l'un des angles négligés dans les analyses critiques du nationalisme identitaire au Québec, à savoir les effets simultanés du racisme, du capitalisme et du patriarcat dans le vécu des personnes racisées. De la colonialité. L'une des thèses centrales des théoriciennes et théoriciens décoloniaux est que la colonialité n'est pas un événement historique limité dans le temps, mais un processus qui a encore lieu présentement, c'est-à-dire que la structure des rapports de pouvoir que nous connaissons à l'échelle globale se base sur les rapports de pouvoir construits progressivement à partir de 1492, sur la douloureuse expérience socio-historique du colonialisme et de l'esclavage. L'eurocentrisme chrétien imposé par les colonisateurs aux Autochtones des Amériques par la colonisation et aux Noirs par l'esclavage a participé à configurer des catégories et des identités de race, de genre et de sexualité, des catégories sur lesquelles s'exerce le pouvoir aujourd'hui. Alors que le colonialisme classique, avec siège dans la métropole, s'est transformé, donnant lieu à d'autres modalités et structures de domination, protectorat, néocolonialisme exercé par des moyens économiques, etc., la colonialité inscrite dans les rapports de pouvoir peut se définir comme la radicalisation et naturalisation de la non-éthique de la guerre. Construction de la hiérarchisation. Comme l'ont montré les féministes autochtones noires et chicanas, les catégories de race, de genre et de sexualité assignent un statut d'infériorité aux groupes racisés et ethnicisés et impose des régimes oppressifs, capitalistes, raciales, genrés, hétérosexistes. Autrement dit, la colonialité constitue le lieu d'énonciation qui rend possible un système monde basé sur de nombreuses hiérarchisations qui opèrent à la faveur de l'homme blanc européen chrétien. Ramon Grosfouguel résume ainsi ces hiérarchies. 1. Hiérarchie de classe. 2. Division internationale à l'ethno-raciale globale. 5. Hiérarchie de genre. 6. Hiérarchie sexuelle. 7. Hiérarchie spirituelle à la faveur des chrétiens. 8. Hiérarchie épistémique. 9. Hiérarchie linguistique, langues européennes versus non-européennes. La menace musulmane. Au Québec, les débats sur la loi 21 ont contribué à stigmatiser davantage des communautés et des individus déjà fortement affectés par le racisme et la discrimination, et plus spécifiquement les femmes musulmanes, les communautés juives et sikhes. Ces débats sont survenus dans un contexte où l'islamophobie et la violence contre les musulmans et les musulmanes ont pris une ampleur alarmante. Ils s'inscrivent en continuité avec les discussions antérieures sur les accommodements raisonnables 2006-2008 et sur le projet de loi 60, souvent dénommé « Charte des valeurs » en 2014, des moments qui ont tous servi à ventiler des discours racistes de plus en plus ouverts et qui participaient à construire une image des minorités religieuses et plus spécifiquement des musulmans et musulmanes comme étant une sérieuse menace pour la société québécoise. Dans ces discours, l'image des femmes voilées est construite sur une dualité contradictoire qui présente celles-ci tantôt comme les vecteurs redoutables de l'islamisme qui tendent à radicaliser les jeunes et tantôt comme des femmes soumises et par ce fait représentant un recul pour les droits des femmes québécoises. Vous écoutez « La discrimination par la porte d'en arrière ». Un texte de Leila Benad Djoudja et Leila Sellis paru le 18 mars 2022 dans la revue Nouveau Cahier du Socialisme. Les figures d'autorité. Lors de l'étude de la loi 21, un échange qui illustre le fonctionnement contemporain de la colonialité du pouvoir a eu lieu. L'échange mettait en scène des figures d'autorité importantes. Le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, l'autorité politique, d'une part, et le sociologue émérite du Québec, d'autre part, l'autorité scientifique. Guy Rocher prenait le contrepoids de l'historien Gérard Bouchard, opposé à la loi 21, qui avait insisté sur le manque de preuves scientifiques concernant l'éventuel endoctrinement des élèves de la part des enseignantes portant le hijab. À la défense du ministre, Guy Rocher a avoué qu'on ne peut pas faire la preuve scientifique de la mauvaise influence des professeurs qui portent des signes religieux, mais que, dans l'état d'incertitude, il fallait appliquer le principe de précaution contre les risques possibles pour protéger les élèves, les enseignantes et enseignants et les parents. Ce dialogue télévisé entre deux importantes figures d'autorité qui discutent sur la preuve du danger que représentent les musulmans et les musulmanes ne peut qu'encourager les propos injurieux, racistes et les actes discriminatoires et haineux déjà à la hausse. Le rituel et le langage. Les rapports coloniaux de pouvoir ainsi performés ont gagné en acceptabilité par la force de leur répétition dans une sorte d'itération offensive, pour reprendre l'expression de Judith Butler. La réalisation de ce rituel a été orchestrée par l'État à travers la mise en scène répétée des commissions dans un contexte où la division entre le laïc et le religieux a, en fait, fonctionner comme une ligne de couleur qui marque la différence entre l'Occident moderne et éclairé et des musulmans musulmanes tribaux et religieux. La loi 21 constitue désormais la mise en acte qui rend concevable et acceptable de retirer un droit fondamental à des minorités religieuses racialisées au nom d'un danger dont il n'est plus nécessaire de faire la preuve. Racisme, sexisme et inégalité. La colonialité du pouvoir porte en elle une logique économique qui participe à organiser le capitalisme à l'échelle globale et la distribution mondiale du travail à la faveur de l'Europe. Elle a produit le système monde capitaliste où la main-d'œuvre bon marché, « cheap labor », se trouve dans les périphéries selon une distribution racisée et genrée du travail qui opère de façon à positionner les descendantes et les descendants des sociétés colonisées et mises en esclavage en bas de l'échelle économique. La hiérarchisation des relations raciales, sexuelles, spirituelles, épistémiques et de genre sont constitutives de ce système monde capitaliste. À l'ère néolibérale, on assiste à une accélération des inégalités entre le sud global et le nord global, où les femmes racisées sont particulièrement affectées. les logiques du capitalisme global créent un besoin de main-d'œuvre bon marché que les femmes issues du Sud global doivent combler. Il n'est donc pas imprudent de parler d'une surreprésentation des femmes racisées dans les emplois précaires. Femmes de ménage, services et restauration, gardes d'enfants, etc. Des grandes villes du centre. Les femmes de couleur se retrouvent confinées au double travail reproductif, payé et non payé, et cela est rendu possible par des mécanismes relationnels et imbriqués de race et de genre, dont l'analyse est souvent absente dans les perspectives féministes classiques. Dans les représentations dégradantes de la féminité racialisée qui découlent de l'esclavage et du colonialisme, les femmes racialisées sont considérées comme aptes à faire les tâches ingrates. Les effets structurels de la division du travail sont alimentés par des mécanismes oppressifs de racisme et de sexisme qui se cachent derrière le discours des compétences ou de l'éducation. D'expérience québécoise. Au Québec, les stéréotypes négatifs dominants sur les femmes portant le hijab, qui ont acquis une légitimité juridique grâce à la loi 21, participent à une logique raciste, patriarcale et capitaliste qui précarise les femmes musulmanes en les rendant davantage exploitables. Cela ne fera que renforcer les inégalités sociales qui affectent particulièrement les immigrantes issues d'anciennes colonies, dont les femmes musulmanes. En effet, au Québec, ces femmes immigrantes racisées sont surreprésentées dans les emplois précaires et dévalorisés comme la garde d'enfants et les soins des personnes âgées. Paradoxalement, les féministes nationalistes, que Faris qualifie de fémo-nationalistes, se sont peu efforcés de dénoncer les conditions socio-économiques précaires des femmes racisées et musulmanes et ont, elles aussi, mis l'accent sur le danger du hijab. Vous écoutez « La discrimination par la porte d'en arrière », un texte de Leïla Benadjoudja et Leïla Sélis, paru le 18 mars 2022 dans la revue « Nouveau cahier du socialisme ». Les résultats. Les exclusions prévues dans la loi 21 sont l'aboutissement de plusieurs tentatives de marginalisation économique des femmes musulmanes, puisqu'il était déjà question pendant le débat autour de la Charte des valeurs de leur interdire le travail dans les milieux de garde d'enfants. Or, le travail en milieu de garde offre plusieurs possibilités aux femmes racisées, ce qui leur permet de contourner les effets de la discrimination à l'embauche. En étant à leur compte ou en travaillant avec d'autres femmes racisées et leur donne la possibilité d'un emploi à temps partiel localisé dans les quartiers qu'elles habitent afin de conjuguer travail et responsabilité familiale. Une étude dont l'objectif était d'établir le profil des femmes de l'arrondissement de Saint-Laurent à Montréal a démontré que le lieu de naissance à l'étranger et la langue maternelle précarisent davantage certaines femmes. 78,1% des répondantes ont un revenu de moins de 30 000 $ par année. Le pourcentage augmente à 81,1% lorsqu'on considère les femmes nées à l'extérieur du Canada. Le pourcentage augmente à 89,5% pour les femmes nées à l'extérieur du Canada et parlant l'arabe. Malgré le fait que les répondantes de notre échantillon soient souvent plus scolarisées que la moyenne québécoise, le revenu se loge dans les catégories les plus faibles. L'impact du faible revenu est d'autant plus important si l'on tient compte du fait que les logements où le nombre d'habitants est le plus élevé se situent dans les catégories de revenus les plus faibles, entre 2 et 6 personnes. Conclusion. Même si le gouvernement québécois a présenté la loi sur la laïcité de l'État comme une mesure progressiste et modérée, celle-ci permet plutôt d'institutionnaliser le sexisme, le racisme et la discrimination à l'emploi. Le racisme ambiant, amplifiée par le débat sur la loi 21 et les mesures concrètes établies par cette loi, consolide les hiérarchies économiques et les mécanismes d'inégalité constitutifs de la colonialité. Cette loi fait partie d'un processus à travers lequel le gouvernement de la Coalition Avenir Québec fait la promotion d'une société exclusive marquée par des écarts socio-économiques importants et stables, processus dont fait aussi partie la législation en matière d'immigration qui, entre autres, vise à la fois à réduire le nombre d'immigrants et d'immigrantes et à augmenter la « bonne » immigration, c'est-à-dire celle des Européens et Européennes. On assiste un peu partout à une multiplication des lois visant les musulmans et les musulmanes. Il suffit de rappeler le décret du président états-unien Donald Trump « Protéger la nation de l'entrée de terroristes étrangers » en 2017, la loi de 2004 sur les signes religieux dans les écoles publiques en France, l'interdiction de construction de minarets en Suisse ou, pire encore, la nouvelle loi sur la citoyenneté en Inde en 2019. Dans tous ces cas de figure, un groupe dominant discute, statue et légifère sur les droits d'une minorité. Ce qui nous apparaît le plus inquiétant, ce sont les processus qui non seulement ont rendu possible ces lois, mais surtout la manière dont ces processus déplacent le curseur de l'indicible en matière d'actes et de discours sur les musulmans et les musulmanes. Finalement, les différents débats sur les minorités religieuses menés par le groupe dominant de la société au nom des valeurs d'une société québécoise, dont l'épisode de la loi 21 participe à une subalternisation de groupes et de personnes racisées. La subalternisation en question opère en même temps que le renforcement d'une place privilégiée pour les Québécois et les Québécoises de descendance européenne. Les places contraires occupées par les subalternes et les privilégiés renvoient ici à une dynamique relationnelle qui, d'un côté, construit les aspects symboliques où les personnes euro-descendantes sont associées aux bonnes valeurs, à la bonne religion et à la bonne culture. Dans cette construction symbolique, le déni des oppressions historiques que vivent les personnes issues des sociétés anciennement colonisées se fait au profit de la valorisation d'une certaine culture québécoise construite comme blanche et euro-descendante. L'autre aspect de la dynamique qui construit les subalternes et les privilégiés est la transformation de ce capital symbolique et social en bien-être matériel. Les discussions qui ont entouré la loi 21 confortent et consolident les préjugés racistes qui sont à la base des taux de chômage plus élevés des personnes racisées, de leur déqualification professionnelle et de leurs conditions précaires de vie. La loi 21 représente un plafond qui, loin d'être invisible, est ostentatoirement dressé contre les femmes musulmanes. C'était « La discrimination par la porte d'en arrière », un texte de Leila Benadjouja et Leila Selis, paru le 18 mars 2022 dans la revue Nouveau cahier du socialisme.
Histoire de traduction. Chasseur au harpon. Un texte de Juliana Léveillé-Trudel, paru le 1er juin 2021 dans le carnet thématique « Je lis autochtone », une initiative de la revue Les Libraires. J'ai découvert le texte de Marcousi Patsok par bribes au fil des ans, à travers des exercices de traduction proposés par mon professeur d'Inuttitut, Marc-André Mailleux. Cet enseignant-chercheur, titulaire à l'Institut national des langues et civilisations orientales de Paris, nous présentait de petites phrases extraites du manuscrit original que nous décodions laborieusement, nous, la gang de nerds inutitutophiles, qui suivions le cours en visioconférence bien avant que ça ne devienne la norme de Montréal, Edmonton, au Tasiujac. Si le récit de Marcousi Patsouk avait déjà été traduit en plusieurs langues, dont le français, toutes ces traductions avaient été exécutées à relais, c'est-à-dire non pas à partir de l'original en inutitut, mais bien d'une version réécrite en anglais par l'auteur et fortement influencée par James H. McNeill, son éditeur de l'époque. Beaucoup d'éléments ont été ajoutés pour plaire à un lectorat du Sud. Toute cette idée de nature impitoyable, par exemple, ne se trouve pas dans la version originale. Le mot « nature » n'a même pas d'équivalent en inutitut, car notre concept de nature s'oppose notamment à celui de ville, précise Marc-Antoine Mailleux. Désirant offrir une traduction française réalisée directement à partir de l'inutitut, le professeur se rend à Inukjuak pour rencontrer Marcousi Patsouk, qui accepte de travailler sur le manuscrit avec lui. Le duo fait équipe avec Valérie Enetiouk, professeur de littérature et de traductologie à l'Université Concordia d'Edmonton, pour offrir une édition critique trilingue, inutitut, anglais-français, de Oumajour Siotik Unatwinamut, récemment publié chez McGill Queen's University Press. Le texte est également paru en français seulement chez Boréal sous le titre « Chasseur au harpon ». Les lecteurs qui s'aventureront dans ce livre considéré comme la première publication inuit de fiction feront connaissance avec Kamik, un jeune chasseur cherchant à éliminer un ours malade qui terrorise sa communauté. Bien que le récit puisse sembler tragique, Marc-Antoine Mailleux refuse de lui accoler l'étiquette de tragédie. Dans une tragédie, on trouve la dimension du destin qui s'acharne sur le protagoniste. Ce n'est pas le cas dans « Chasseur au harpon ». Il n'y a pas de force transcendante et le héros garde son agentivité. On pourrait dire la même chose de l'auteur lui-même, qui n'a jamais considéré que son existence était tragique, malgré les drames qui ont ponctué sa vie. Il répétait tout le temps « I've had such a lucky life », raconte Valérie Enetiouk. Et pourtant, à l'âge de 12 ans, en 1953, il faisait partie du groupe d'Inuits envoyés de force dans le Haut-Arctique pour renforcer la souveraineté canadienne dans la région. L'année suivante, il était expédié seul dans un hôpital du Manitoba pour y faire soigner sa tuberculose. Il a découvert le cinéma quand il était au sanatorium. Il a visionné plusieurs films. Ça se sent dans son écriture. Il y a un aspect cinématographique, explique la traductrice albertaine, qui remarque aussi l'influence majeure de la littérature orale inuite. Les histoires inuites ont souvent des fins très choquantes, même lorsqu'elles s'adressent aux enfants. Pas de « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », donc, sous la plume de Marcousi. La conclusion du texte en surprendra peut-être quelques-uns, mais Marc-Antoine Mailleux invite les lecteurs à ne pas interpréter la fin à la lumière de la littérature occidentale. Aujourd'hui, les sociétés inuites voient le suicide différemment, mais durant la période pré-contact, le suicide faisait davantage partie de la vie. Il y avait peu de réseaux d'intégration pour rattacher l'individu à la société, et les chances de se sentir seul au monde étaient plus grandes. Marcousi Patsouk, décédé d'un cancer en mars 2020, n'aura malheureusement pas vu cette dernière édition. Les deux traducteurs souhaitent que cette version permette à l'œuvre de poursuivre son rayonnement et d'être considérée à sa juste valeur littéraire. Son travail a beaucoup été dévalué. Certains ont prétendu que Marcousi n'avait que retranscrit des légendes entendues dans son enfance, alors qu'il a réalisé un véritable travail d'écriture, qu'il a complètement inventé cette histoire en s'inspirant d'éléments de la tradition orale, rappelle Valérie Enetiouk. Il n'avait eu accès qu'à très peu de textes littéraires avant d'écrire le Harpon, mis à part quelques bandes dessinées. Il n'avait pas de modèle. C'est très impressionnant. De plus, il a écrit ce texte directement en Inuktitut, ce qui est extrêmement rare. Son récit a souvent été catégorisé comme étant de la littérature jeunesse, renchérit Marc-Antoine Mailleux. Peut-être à cause du personnage de l'ours, qui a une pensée, un point de vue qui lui est propre, mais ce n'est pas un choix littéraire. C'est simplement représentatif de la compréhension inuite du monde. Les animaux ont une apparence physique différente de celle des humains, mais une subjectivité similaire à la leur. Alors que pour les Occidentaux, c'est plutôt l'inverse. Le temps d'une balade dans la toundra avec le chasseur au harpon, il fait bon changer de perspective imaginaire et géographique sur ce territoire immense que Tamuzik Mak, auteur du premier dictionnaire de définition en Inuktitut, décrivait ainsi « un grand pays occupé par des animaux ». C'était « Histoire de traduction chasseur au harpon », un texte de Juliana Léveillé-Trudel paru le 1er juin 2021 dans le carnet thématique « Je lis autochtone », une initiative de la revue Les Libraires.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et Gilbert Lepage à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.